le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères, et oui, nous émettons en 15 langues, reviennent pour vous sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Nous donnons aussi la parole à des journalistes d'autres médias et nous allons, entre autres, aujourd'hui, parler de la cohabitation avec des espèces sauvages qui reviennent en Europe, comme le loup et l'ours, de la situation critique de la Zambie qui souffre d'une sécheresse inédite. Ce pays aura-t-il accès au financement du fonds pertes et préjudices de l'ONU, dont le conseil d'administration vient de tenir sa première réunion? Nous ferons le point. Nous irons aussi au Bénin grâce aux vidéastes du réseau Hip-Hop et nous visualiserons les conséquences de l'érosion côtière. Et oui, c'est possible à la radio grâce à la chronique culture de Caroline Fillette. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir Coralie Chaud. Bonjour Coralie.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes journaliste environnement au quotidien français Libération. Et pour les journalistes maison, ils sont trois avec nous dans ce studio. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Vous êtes la chef adjointe du service environnement climat de RFI, service auquel vous appartenez. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
De C'est pas du vent, vous connaissez bien, et à côté de vous, Bounaziwa Vassile Damian.
Bounaziwa, Anne-Cécile.
Ça va, je m'en suis bien sortie.
Très bien.
Bon, et vous êtes journaliste à la rédaction roumaine de RFI, que vous dirigez d'ailleurs. Alors pour débuter cette émission, c'est désormais la tradition, je vais vous demander à chacun de me dire ce qui vous a surpris dans l'actualité récemment. Coralie.
Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'explosion des violences et des intimidations à l'encontre des journalistes couvrant la crise écologique. Parce que la semaine dernière, l'ONU a révélé qu'entre 2009 et 2023, au moins 749 journalistes et médias couvrant les questions environnementales ont été victimes de meurtres, de violences physiques, d'arrestations, de détentions, de harcèlement en ligne ou de poursuites judiciaires. Le phénomène est généralisé puisqu'il touche 89 pays de toutes les régions du monde et il s'aggrave hélas parce que le nombre d'attaques a grimpé de 42% entre 2019 et 2023 par rapport aux 5 années précédentes. Alors pour l'ONU, cette situation calamiteuse s'explique par le fait que le travail de ces journalistes en charge des sujets environnementaux, je cite, recoupe souvent des activités économiques très rentables telles que l'exploitation forestière illégale, le braconnage ou le déversement illégal de déchets. Et alors, je dois vous avouer que cette tendance de beaucoup d'humains à vouloir tuer le messager, qu'il soit journaliste mais aussi scientifique ou militant, parce qu'on sait que eux aussi se font harceler
largement, voire tuer.
Cette tendance, elle m'étonnerait toujours, parce que même si on est égoïste, cynique et vénal, qu'on veut s'enrichir à court terme, qu'on est prêt pour ça à tout, comment est-ce qu'on peut être assez Et cervelé, au point de ne pas comprendre qu'en anéantissant le messager, donc l'environnement, donc nos conditions de vie sur Terre, on agit contre soi-même et on agit contre ses propres enfants, on condamne ses enfants. Donc pour moi, ça c'est très étonnant, c'est incompréhensible, ça me dépasse.
Oui, je partage avec vous cette... C'est plus qu'un étonnement, c'est presque un énervement,
oui,
un agacement.
Oui, j'en ai fait un billet d'ailleurs.
Un billet que l'on peut lire absolument sur le site de Libération. Pauline, qu'est-ce qui vous a surprise, vous ?
Eh bien, c'est l'État qui a autorisé un nouveau forage de pétrole en région parisienne. Alors, ce n'est pas le seul projet, il en existe également dans le sud-ouest de la France. Et le tout, alors que l'on sait que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'AIE recommande de ne pas investir dans
l'Agence internationale de l'énergie.
Exactement. De nouveaux sites d'hydrocarbures. Le tout également alors que, rappelons-le, la France fait partie de l'alliance internationale Beyond Oil and Gas, au-delà du pétrole et du gaz, dont l'objectif c'est précisément d'accélérer la sortie des combustibles fossiles. Et en plus de la question climatique, il y a aussi la question de la pollution qui se pose. La mairie de Paris dénonce cette semaine l'impact que l'extension du site de forage près de Paris pourrait avoir sur l'eau. Le nouveau puits est situé à proximité de deux sites de captage d'eau potable. Donc cela pourrait avoir un impact sur la population.
Et le bras de fer ne fait que commencer. Igor, votre étonnement ?
Eh bien moi, mon étonnement, c'est ça.
Nous, tout de suite, on a pensé à Avatar, un peuple autochtone qui vit en harmonie avec cet environnement, qui l'a préservé pendant des centaines d'années, voire des millénaires. Et tout ça est menacé par l'avidité liée à l'exploitation d'un minerai qui est exploité par une entreprise française qui bénéficie déjà de fonds français et qui est en train de menacer la survie d'un peuple autochtone non contacté et de détruire des milliers d'hectares de forêts primaires.
C'est donc un extrait d'une vidéo du Média Brut, Igor.
Ouais, nous sommes sur l'île d'Halmahera, en Indonésie. On y voit deux personnes en pagne, avec les cheveux longs, avec des bâtons à la main, face à un immense tractopelle. La vidéo est virale, elle est assez hallucinante à voir. Effectivement, ça rappelle un petit peu le film Avatar. Un peuple autochtone non contacté, ce sont des gens qui n'ont pas côtoyé la modernité, qui vivent dans leur forêt, tranquillement. Et une société, donc la société française Eramet, souhaite exploiter le nickel, un des fameux minerais de la transition, essentiel pour fabriquer les futures batteries de voitures électriques notamment. Et ça pose la question de exploiter ces minerais de la transition, c'est très bien, mais à condition que ça respecte, un, l'environnement. Alors, Eramet dit qu'ils vont reforester, évidemment, que ça n'a aucun impact sur ces populations autochtones non contactées. Mais pour certains défenseurs de l'environnement, bah, c'est pas le cas. Donc, c'est pour pousser un petit coup de gueule, c'est un étonnement, voilà. Et puis, ça rappelle d'autres exemples. On en avait parlé sur RFI. Un mois à peine, j'en avais fait une chronique dans question d'environnement. C'était en Guyane, c'était le peuple autochtone Kalina qui avait déposé une plainte contre l'ONU exhortant l'État français d'arrêter une construction d'une centrale photovoltaïque. Alors là, le photovoltaïque, c'est très bien, sauf que c'était sur ses terres. Encore un peu plus loin, bah, c'était Greta Thunberg qui manifestait contre l'installation d'éoliennes en Suède parce que ça nuisait au peuple Sami. Donc les minerais, la transition, les éoliennes, c'est très bien, mais pas aux dépens des peuples autochtones.
Eh oui, nous en parlions la semaine dernière dans C'est pas du vent. Pour développer les énergies renouvelables, une nouvelle ruée minière d'une ampleur inédite a commencé. Vassilé, quel est votre étonnement ?
Eh bien, mon étonnement, c'est la pluie qui nous a mouillés, qui nous mouille encore à Paris. Certes, on n'est pas encore à Dubaï, comme c'était il y a 2 semaines, mais quand même, je vis à Paris depuis 33 ans et je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu aussi longtemps sous la flotte. À mieux regarder les chiffres, je ne me suis pas trompé, donc j'ai raison de m'étonner. Selon les mesures de la station parisienne de Montsouris, Paris a enchaîné 7 mois de pluie avec plus de 60 mm de précipitation. Ce n'est pas arrivé depuis que les relevés existent, à savoir depuis 150 ans. Les derniers records datent de 1960 et de 1978, mais avec seulement 6 mois d'affilée avec autant de pluie. Enfin, cette abondance humide a son contre-coup, bien sûr, le manque de soleil, un déficit de 20% d'ensoleillement au mois d'avril. C'est pour le troisième mois consécutif que les Parisiens ont été donc dans le gris total, en plus les pieds dans l'eau.
Et nous l'avons tous ressenti.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Coralie Chaube, journaliste environnement au quotidien français Libération. Et alors, vous vouliez nous parler de la cohabitation entre les humains et le loup qui fait grincer des dents en France et en Europe ces derniers mois.
Et oui, Anne-Cécile, et c'est un sujet passionnant qui pose la question de notre volonté ou pas, malheureusement, de cohabiter avec les grands carnivores en particulier et avec la vie sauvage en général. L'Union européenne héberge aujourd'hui plus de 20 000 loups, dont les populations sont généralement en augmentation et s'étendent sur des zones de plus en plus grandes avec des meutes reproductrices dans 23 États membres, selon la Commission européenne. À tel point que sa présidente actuelle, l'Allemande Ursula von der Leyen, dont l'un des poneys s'est d'ailleurs fait croquer par le loup.
Mauvais choix du loup, voilà, au passage. Hein.
Il s'appelait Dolly, je crois. Clame que Canis lupus, le nom scientifique du loup, représente un réel danger pour le bétail et potentiellement pour l'homme. Donc, fin décembre 2023, la Commission a proposé d'abaisser le niveau de protection dont bénéficient les loups. Elle souhaite classer le loup comme espèce protégée plutôt que strictement protégée actuellement, afin, dit-elle, d'introduire, si nécessaire, davantage de flexibilité, pardon, autrement dit donc de permettre d'éliminer plus facilement les loups. Mais selon les ONG de défense de la nature, ça mettrait en péril la survie d'une espèce déjà vulnérable sans résoudre les difficultés auxquelles font face les éleveurs. Parce que l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, estime que 6 des 9 populations de loups présentes dans l'Union européenne sont vulnérables ou quasi menacées. Or, elle rappelle que ces prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes et la régulation des ongulés, notamment des cerfs, des biches et des chevreuils qui sont friands de jeunes arbres.
Et en France, comment se passe la cohabitation ?
Eh bien, en France, c'est le même topo. Le loup, la terreur de nos contes et légendes, a été éradiqué de la métropole dans les années 1930. Mais il est revenu naturellement depuis l'Italie en 1992, car il n'avait jamais disparu des montagnes italiennes, notamment des Abruzzes. Il n'a donc pas été réintroduit chez nous, contrairement à ce qui est souvent cru ou dit, mais il est revenu tout seul comme un grand dans les Alpes françaises. Depuis, avec des effectifs en hausse de 15 à 20% par an, il a colonisé tout l'arc alpin. Il se sent chez lui dans 55 départements, dont une vingtaine où des meutes sont déjà installées. Alors, même si le loup est strictement protégé en France, les tirs sont déjà largement autorisés. L'État français a mis en place des dérogations qui permettent d'abattre chaque année entre 15 et 20% de la population de loups de métropole. Cette année, ce sera 19%, comme l'année dernière. Et le nouveau plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage pour la période 2024-2029, qui a été présentée en février, vient de faciliter encore davantage l'abattage des loups sur le territoire français.
Et tout cela, évidemment, a provoqué la colère des ONG.
Et oui, 11 d'entre elles, dont France Nature Environnement, le WWF, l'UICN, dont j'ai déjà parlé, ont lancé en mars une grande pétition citoyenne pour appeler le gouvernement français à rejeter sans ambiguïté la proposition ni nécessaire ni justifiée de la Commission européenne visant à abaisser le statut de protection du loup. Ce qui n'est pas gagné, donc, puisque le gouvernement français est sur la même ligne dure que la Commission. Et plusieurs groupes d'associations ont par ailleurs déposé des recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté facilitant la destruction du loup.
Alors, les loups font des dégâts dans les troupeaux, surtout parmi les moutons et les chèvres, rapidement, Coralie. Et il y a des solutions pour limiter tout cela.
Alors oui, c'est vrai, le loup aime croquer les brebis et d'autres animaux d'élevage. Mais ce que disent les associations et même certains éleveurs, c'est qu'il n'est pas la principale cause de la crise de l'élevage, loin de là. En France, malgré la hausse de la population de loups, le nombre de dégâts causés au bétail est en recul ou stagne à 12 000 bêtes tuées par an à peu près. Et des jeunes éleveurs s'installent en Isère, dans les Alpes de Haute-Provence ou dans la Drôme, alors que le loup y est. Et l'élevage se porte plus mal, paradoxalement, dans l'ouest de la France, où il n'est pas encore installé. Donc voilà, c'est un bouc émissaire idéal, dénoncent les ONG, qui serait rendu responsable des difficultés de l'élevage, alors que les véritables menaces pesant sur cet élevage sont liées aux importations sans contrainte, facilitées par les accords de libre-échange. Et donc, elles estiment que les tirs ne doivent rester qu'une solution d'ultime recours quand les moyens d'effarouchement et de protection ont échoué, c'est-à-dire il y a un triptyque qui marche très bien, notamment dans les Alpes, et qui se développe un petit peu partout en France, c'est mettre des clôtures électrifiées pour protéger les bêtes, embaucher des bergers et évidemment des chiens de berger, les fameux patous dont on parle, et ça fonctionne, et c'est aussi pour ça que la cohabitation se passe plutôt bien dans les Alpes.
Igor, vous vouliez réagir ?
Oui, alors juste pour l'anecdote, moi il y a longtemps, il y a 25 ans, j'étais stagiaire à l'AFP à Grenoble, donc en plein dans les Alpes françaises. L'agence française, exactement. Et c'était déjà un gros sujet, la réintroduction du loup. C'était un sujet d'actualité énorme.
L'arrivée naturelle.
Oui, c'est ça. Oui, pas du tout. L'arrivée naturelle, exactement, par l'Italie, comme vous l'avez dit. Et surtout, on le sait, vous l'avez dit aussi, il y a des solutions. On en a parlé sur cette antenne il n'y a pas si longtemps que ça. Les chiens de berger, les clôtures électrifiées. Enfin, il y a plein de solutions. Et on est dans un monde où, en 2024, on s'imagine encore qu'en se débarrassant d'une espèce, on va régler les problèmes, alors qu'on sait que c'est tout un écosystème, qu'en bougeant la moindre petite chose, si on a le temps, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes.
Moi aussi.
Parce que j'en ai sur le continent qui sont hallucinantes.
On a d'autres sujets que nous à aborder dans cette émission.
En se disant que, c'est ça, on s'est débarrassé du problème. Je trouve ça surréaliste en 2024, c'est tout.
Oui, il faut rappeler que chaque espèce joue un rôle dans l'écosystème et à sa place. Voilà. Pauline Glaise.
Certains disent aussi que les loups peuvent réguler certains grands herbivores qui grignotent les arbres et qui posent aussi des problèmes dans les forêts parce qu'ils sont nombreux aussi.
C'est ce que je disais. Ouais.
Pardon.
Allez, un petit voyage en Tanzanie. Pas sûr qu'il y ait des loups dans ce pays, mais un voyage musical avec Fresh Boys et Bruce Africa et leur titre Emoji. Nous sommes mercredi et vous êtes bien sur RFI.
Gemelt. just call me every time you want to. Si ta si ta kupoke, ni wewe nataka. Si ta weka mwewe to. Every time you want me, when you get it on me. Si ta si ta kupoke, ni wewe nataka. Hi, imo, nikiwega imo. Tato mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hi. Emo, ikiwega emo. Tata, msuri yama emo. Timbo, live in the timbo.
Toto mzuri so fine. It's good that I'm yours. It's best that you're mine. At your nani, you're my best buddy. You're the best shawty. Cutie pie, figure eight, pretty face. Super charming, uko sweet girl. I'm loving the taste. I need you, I want you. Nipendos, your homo, I love you. Siwazen, I got you. And I say, girl, you can have whatever you like, yeah. Girl, we can go wherever you want to. Kwa wawili posti picha moja pozi zaidi ya mbili. Stika kwenye uso ya nini nkufiche kwa nini. Pisi ya mimi pichi moji vitu navyo kula mimi. Ukintumia imoja tango nshajio nataka tu.
My president told like I'll never undo. Girl, your booty good is your mind too. Take it to the hood if you want me to. Mami shache sala. Lala chapa para. Sini toy kafara. Tequila, vindo, niko vindo, mama, nimekuimbia na nyimbo, tuone tuko chimbo, dada, nafanya na kesha lindo,
imo, nikiwega imo, tata mzuri kama imo, imbo, lipenda dimbo, imbo, imo, nikiwega imo, tata mzuri kama imo. Timbo, live in the timbo. Oh no, no, no.
When you type a girl to make me go and kill a nigga. When you type a girl to make me hustle for the figures. When you type a girl to make me do everything you want me to. Kila ini bila jasho bila shida. Cause Nikki wanna wear my nigga.
Emoji, c'est le nom de ce titre des Tanzaniens. Fresh Boy, c'est Bruce Africa. Vous écoutez le club de C'est pas du vent qui donne la parole aux journalistes qui traitent des sujets environnementaux sur RFI et ailleurs. Chaque semaine, nous mettons aussi en avant un vidéaste amateur du réseau hip-hop pour Petites Ondes Participatives, un réseau qui recueille des témoignages pour humaniser le débat. Et c'est une chronique de Caroline Fillette.
Partons aujourd'hui pour le Bénin, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, à la rencontre de Marcel Koussou, journaliste et militant écologiste. Chaque mercredi soir, Marcel ramasse les déchets de son quartier. Un reportage hip-hop signé Assanvi Fumiyalo, dont nous allons écouter un extrait.
Les raisons pour lesquelles vous constatez qu'il y a assez de déchets encore dans le quartier pourraient peut-être être des raisons liées à l'incivisme des populations, ça fait un. L'autre chose également qu'il faut noter, c'est que peut-être parce que les habitants de ce quartier n'ont pas vraiment une éducation. Vous voyez que les matériaux avec lesquels je travaille, ça, ce n'est pas un sac adéquat. Cette activité de ramassage d'ordures que je mène les mercredis soirs, de façon générale, a bien évidemment un effet parce que un effet sur la propriété de mon quartier. Parce qu'il y a de cela 3 ans, je l'ai dit, quand j'intégrais ce quartier, c'est des déchets partout. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, vous pouvez promener votre caméra et voir, vous allez remarquer qu'il y a une avancée significative. Déjà, l'autre chose qu'il faut faire, c'est d'introduire dans nos offres de formation l'éducation à l'environnement. Pour que les jeunes enfants, d'accord, s'imprègnent dès le bas âge de comment il faut prendre soin de son environnement. Parce que c'est aussi notre maison. Et on n'a pas un cadre de vie de rechange. On n'a pas une terre de rechange. Si nous tombons tous dans le gouffre, ça, c'est fini pour la race humaine. Les déchets, on va en produire. Mais il faudrait que nous ayons une éducation dès le bas âge pour pouvoir les gérer.
Bonjour Fumi, c'est vous qui avez réalisé ce film dont nous venons d'entendre un extrait et dans lequel un citoyen très engagé témoigne de la nécessité de ramasser les déchets dans les villes. C'est cet engagement qui vous a donné envie de faire son portrait ?
Bien sûr, bien sûr. Au Bénin, il y a une grande vague d'engagement autour des déchets. C'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt, en tout cas, de la part de beaucoup de personnes. Et il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent de la sorte en participant à des campagnes de salubrité, en essayant de participer à l'assainissement du cadre de vie commun.
Est-ce que ce film interpelle les décideurs, selon vous ?
C'est un levier sur lequel les décideurs peuvent agir. Aujourd'hui, dans nos curricula de formation, en tout cas tels qu'ils sont conçus, ce n'est pas la question environnementale n'a pas une grande part dans les programmes scolaires. Pourtant, ça peut être l'un des moyens par lesquels les jeunes, la prochaine génération, pourraient être sensibilisés et pourraient mieux appréhender ces questions-là, notamment sur les déchets, et avoir une culture de jeter plutôt dans la poubelle, du tri, du recyclage, etc. etc.
Pour ça, il faut qu'il y ait des poubelles.
Bien sûr. Et c'est justement pour ça que je dis que c'est un film qui interpelle véritablement l'action de nos décideurs. Et c'est tout un ensemble. En même temps, Marcel montre que un citoyen peut s'engager, peut être volontaire pour rendre son environnement sain, mais c'est aussi aux décideurs de créer le cadre favorable à cette action du citoyen, de faire en sorte que le cadre puisse favoriser l'arrivée du citoyen et qu'il puisse se dire « oui, je peux contribuer, je peux être engagé sur ces questions-là ».
Merci Foumi.
Et merci à Marcel Dabomey-Calavi pour cette belle initiative. Merci à Caroline, à Gaëlle Flogère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et les équipes de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Igor, vous vouliez réagir à cette vidéo?
Oui, parce que moi j'adore ces initiatives citoyennes. Le problème des déchets, il se pose un peu partout dans le monde, en Afrique évidemment. Rappelez-vous, Anne-Cécile, j'étais pour vous en reportage en Tanzanie, à Dar es Salaam. On parlait de l'incivilité, voilà. Mais il y a aussi le manque d'infrastructures à Dar es Salaam. C'est tout simplement un quartier vallonné de la ville où les camions de poubelles ne pouvaient pas passer. Les citoyens se sont retroussés les manches, ont commencé à ramasser les déchets, à trier leurs déchets. Nos déchets ont de la valeur, c'est ça qu'il faut dire. Les déchets végétaux pour les animaux, évidemment. Mais si on prend par exemple les bouteilles en verre, moi j'ai vu dans ce quartier de Dar es Salaam des sols de maisons construits avec tout simplement des bouteilles qu'on enfonçait dans le sol. Ça fait un sol frais. Donc c'est pour dire que c'est utile. Les gens étaient ravis, ils ont vu que vivre dans un environnement sain, c'est quand même plus agréable. Et c'est comme ça que petit à petit, des quartiers entiers sont dépollués et que cette conscience citoyenne infuse. Donc c'est super.
Il y a des défis sur les réseaux sociaux, vous vous filmez devant votre maison avec plein de déchets autour et puis vous refaites la photo une fois que vous avez tout ramassé et vous verrez...
Et ça change.
Ça crée plein d'émulation, c'est repartagé, vous devenez la star du quartier, tout ça. Donc nous vous incitons à le faire.
Allez,
dans C'est pas si bon. Allez, RFI émet en 15 langues et figurez-vous que dans chaque langue, il y a un référent environnement. Et évidemment, nous leur donnons la parole dans C'est pas si bon.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsai, ce că sunt ceva.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты Международного французского радио RFI.
Vassile Damian, vous êtes le chef de la rédaction roumaine de RFI et vous allez nous parler d'un projet pilote pour améliorer la relation entre les humains et pas les loups cette fois, mais les ours. Ça se passe en Roumanie, le pays européen qui en abrite le plus, puisqu'au moins 8000 ours y ont été recensés. Alors en quoi consiste ce projet pilote ?
Eh bien le projet dont je vais vous parler a été monté à l'initiative de WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, avec la mairie et les autorités locales de Băile-Tușnad. C'est une ville, l'une des moins, sinon la moins peuplée de Roumanie. En fait, c'est plutôt un grand village avec quelques 1500 âmes au centre de la Roumanie. Le lieu est connu pour ses eaux thermales, d'ailleurs Băi, ça veut dire eau, et depuis des années pour ses ours qui posent donc de plus en plus de problèmes aux habitants, mais aussi aux touristes. Le lieu est connu pour la présence massive des ours. Peut-être pas par hasard, car la ville se trouve au beau milieu d'un corridor écologique, un trajet, une sorte d'autoroute que les plantigrades empruntent tous les jours. La présence est si importante qu'en 2021, il y a eu des manifestations
anti-ours. Les animaux venaient tous les jours en ville, entraient dans les maisons ou dans les pensions, à la recherche bien sûr de nourriture. Nourriture qui, par ailleurs, les autorités locales mettaient à la disposition des ours, mais en dehors de la ville. Les compléments alimentaires étaient nécessaires car les ours, malheureusement, ne trouvaient plus assez à manger dans la nature. Pour améliorer donc la vie en commun entre l'homme et l'ours, ou la cohabitation des deux pour ainsi dire, les responsables locaux ont commencé à monter en 2022 un projet pilote qui vise à faire de cette ville la première communauté Beer Smart de Roumanie. Alors j'ai essayé de traduire Beer Smart, c'est vivre en bonne intelligence. Je pense que c'est ça le sens. Les premiers résultats sont tout à fait concluants. Si en 2021 on avait enregistré 220 messages d'alerte concernant les présences ou les attaques d'ours, en 2023, on n'a eu que 8 messages de ce type.
Alors, comment s'explique cette soudaine baisse des alertes ?
Eh bien, le triptyque gagnant, c'est une meilleure communication, une meilleure entente avec l'animal et un peu d'argent. Environ 200 000 euros venus de fonds étrangers et d'autres donations internationales. Les spécialistes ont d'abord créé une application mobile, que j'ai d'ailleurs téléchargée sur mon téléphone. Elle s'appelle Tushnat Eco Beer Watch, utilisable tant par les habitants que par les touristes de passage.
Alors, peut-être qu'à Paris, c'est moins utile. Mais...
Évidemment, c'est bien. Elle n'est pas du tout utile. D'ailleurs, on vous demande l'adresse, on vous demande où vous êtes et vous avez la carte de cette ville. Elle est donc interactive. On a les infos sur les derniers événements impliquant des ours. On peut savoir où et quand ont été vus les derniers animaux dans la ville. On peut en photographier soi-même l'ours et alerter ensuite les autorités, si on a le temps. Il y a aussi des conseils, mais je dirais qu'ils sont assez basiques et ils prêtent souvent à sourire. Par exemple, à la question qui est écrite noir sur blanc, « Que faire si on tombe nez à nez avec l'ours ?» La réponse est très simple. On se signe et on court le plus vite possible.
Est-ce que ça aide vraiment? Je ne sais pas.
Eh bien, à part l'application, la mairie a organisé des conférences et des expositions sur le thème de la relation homme-ours, mais surtout a pris des mesures concrètes dans la ville. Eh bien, c'est Christian Pape, expert en grands carnivores, coordonnateur du département espèces sauvages auprès de WWF Roumanie, qui a donné les détails à notre collègue de Bucarest, Cosmin Rușcior.
A fost, montate, miles
On a monté des clôtures électrifiées partout dans la ville. Chaque clôture a au moins un fil électrique qui tient les ours à distance. Une autre mesure, considérée par certains comme radicale, a été de couper tous les arbres fruitiers, notamment les pommiers et pruniers, qui étaient plantés dans l'espace public. Ils ont été remplacés par des arbres décoratifs, sans intérêt pour les ours.
Alors, Vassilé, les ours viennent surtout chercher de la nourriture dans la ville. Alors, comment est-ce que les autorités ont résolu le problème des poubelles, les déchets dont on parlait tout à l'heure au Bénin?
Eh bien, en Roumanie, les Roumains ont commandé en Slovaquie, autre pays de l'Est, des conteneurs spéciaux pour les déchets. De différentes tailles, bien sûr, des conteneurs anti-ours, pourrait-on dire, résistants, pratiquement blindés, que les ours ne pourront pas ouvrir pour récupérer les déchets. Évidemment, pour qu'ils soient efficaces, il faut que les gens, les locaux et les touristes s'en servent correctement. Il y a eu d'ailleurs une formation, plutôt une information publique sur le fonctionnement de ces nouvelles poubelles qui seront installées ces ours-ci. En attendant, les anciennes poubelles existent encore en ville, mais elles sont vidées tous les soirs pour ne pas attirer bien sûr les animaux. Enfin, sur certains ours capturés, on a installé des équipements type caméra et ou collier avec GPS pour suivre et comprendre les déplacements des animaux. Par ailleurs, des caméras et des capteurs de mouvement ont été installés aux portes de la ville. Cela permet bien sûr de savoir quand les animaux arrivent pour mieux se préparer.
Alors un projet pilote bien complet du coup et qui pourrait intéresser d'autres régions et même d'autres pays.
Tout à fait. Déjà, il y a un deuxième département, à part Harghita, là où se trouve Băile Tușnad, qui s'est montré intéressé par ce projet pilote. À l'étranger, c'est déjà la Slovaquie qui voudrait appliquer les méthodes de Băile Tușnad.
Coralie, vous vouliez réagir?
Oui, parce que ce sujet rejoint évidemment la problématique du loup dont je parlais. Et pour les ONG qui luttent contre l'affaiblissement du niveau de protection du loup dans l'Union européenne, faire cela, ça constituerait une régression sans précédent, une démarche inédite et extrêmement préoccupante. Pourquoi ? Parce que ça mettrait aussi en danger d'autres espèces. Et d'ailleurs, plusieurs pays se sont déjà engouffrés dans la brèche pour demander le déclassement d'autres carnivores strictement protégés, comme l'ours ou le lynx. Donc, ils sont tous menacés, entre guillemets. Et parmi ces pays, eh bien, je disais qu'il y a aussi la Roumanie. Vassilé, vous étiez au courant?
J'étais pas du tout au courant de ça, mais je me souviens du débat qu'il y a encore et qu'il y a eu en France à cause des 80 ours qui sont dans les Pyrénées, introduits, eux, par l'homme, il y a quelques dizaines d'années.
Toujours la même problématique de la cohabitation
avec les sauvages. Bah en Italie aussi, la cohabitation en ce moment se passe pas forcément très bien, en tout cas dans le Nord. Il y a eu quelques cas d'agression sur l'homme. Il y a un jogger qui a été retrouvé mort il y a quelques mois ou quelques années. Et résultat, le Trentin, donc, qui est une région du Nord de l'Italie, a pris un arrêté pour autoriser l'abattage des ours, alors dit problématiques. Donc, je ne sais pas la définition exacte de ce qu'est un ours problématique. Jusqu'à 8 ours pourront être abattus cette année et 8 l'an prochain. Mais alors voilà, évidemment, une organisation environnementale est très remontée. Elle a dénoncé des échecs de gestion de cohabitation avec l'ours. Et surtout, elle rappelle que seulement 10 ours ont blessé des hommes depuis les années 90. Et par ailleurs, il y a aussi des cas de cohabitation qui se passent bien. Je me souviens d'un reportage dans le centre de l'Italie où un agriculteur me racontait qu'il, de temps en temps, il envoyait et que ça se passait assez bien. Voilà, le seul problème, c'est que parfois, il montait dans les pommiers, il choisissait les pommes qui lui plaisaient pas, il les balançait et donc ça plaisait pas à l'arboriculteur.
Vassilé Damien.
Oui, je voulais dire qu'en Roumanie, il y a aussi de temps en temps des cas comme ça, des attaques d'ours contre les hommes, contre les touristes notamment, qui ne connaissent pas bien le cas. Mais on organise des chasses en Roumanie qui sont d'ailleurs très lucratives. Chasser un ours, ça peut se faire en Roumanie contre 10, 20 000 euros.
Oui, ce n'est pas forcément une bonne solution non plus. Allez, dans un instant, nous parlerons de l'érosion côtière qui prend de l'ampleur dans le monde entier avec la chronique culture de Caroline Fillette. Mais d'abord, écoutons le Mali, le Congo et la Côte d'Ivoire réunis avec les Amazones d'Afrique, Mamani Keïta et Fafa Rufino. Ils interprètent Flows dans C'est pas du vent. Par les Amazones d'Afrique, Mamani Keïta et Fafa Rufino, un titre que vous pouvez retrouver comme de nombreux autres sur la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes. Et maintenant, place à la chronique culture de Caroline Fillette.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Et aujourd'hui, Caroline, vous allez nous présenter un beau livre de photographie. Ce n'est pas évident à la radio, mais vous allez le faire brillamment, j'en suis sûre. Ça s'appelle « La marche de l'océan sur l'érosion côtière ».
Et oui, Anne-Cécile, les littoraux menacés par la montée des eaux et l'érosion côtière sont des sujets vraiment préoccupants, hein, dont on parle régulièrement d'ailleurs dans « C'est pas du vent ». Ce phénomène d'érosion côtière concerne aussi bien l'Afrique de l'Ouest que la côte d'Opale dans le nord de la France ou le Brésil. Et c'est d'ailleurs au Brésil, d'où il est originaire, que le photographe Felipe Fittipaldi a ancré son travail, et plus précisément à Atafona. Alors cette ville située à l'embouchure du Paraíba do Sul, qui est un fleuve qui alimente Rio de Janeiro et Sao Paulo, eh bien cette ville est véritablement prise en étau entre la montée des eaux et l'érosion côtière. En une cinquantaine d'années, plus de 500 maisons ont été détruites par les vagues à Atafona.
Alors à quoi ressemblent les photographies de ce livre que nous avons d'ailleurs sous les yeux?
Et oui, ce n'est jamais évident de décrire une photographie à la radio, hein, mais ce que je peux vous en dire, Anne-Cécile, c'est qu'elles sont à la fois magnifiques et tragiques. Alors magnifiques esthétiquement, hein, car les lumières sont sublimes, on a presque l'impression que les photos ont été prises en studio, mais tragiques et percutantes parce que Fittipaldi, capte une réalité brute. Les regards désespérés des habitants, les paysages de désolation, les maisons ensevelies par le sable et pour la plupart détruites ou sur le point de s'effondrer. Toutes ces photos sont criantes de vérité et incitent vraiment à réfléchir à ce phénomène d'érosion.
Alors un géomorphologue a par ailleurs... Une géomorphologue a par ailleurs signé le texte qui accompagne cet ouvrage.
Et oui, tandis que les photographies de Felipe Fittipaldi nous plongent dans le quotidien de la population subissant cette montée des eaux, la chercheuse Marie-Hélène Ruse, grâce à son texte, apporte un éclairage scientifique indispensable et élargit notre point de vue. Elle nous explique notamment que le littoral a toujours été en constante transformation, mais la différence aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle cela se produit. À certains endroits, des processus d'érosion qui prenait des centaines d'années peuvent maintenant être observés en une seule génération. J'ai pu joindre Marie-Hélène Ruse au téléphone il y a quelques jours et elle nous a expliqué comment elle abordait le texte de cet ouvrage.
Alors j'ai essayé effectivement de partir du temps long pour essayer d'expliquer que de tout temps le littoral a évolué. En fait c'est un texte qui correspond à pratiquement un cours d'introduction pour mes étudiants, pour qu'ils comprennent bien que quand on parle d'évolution du littoral, eh bien c'est une évolution quasiment constante, hein. On s'en préoccupe beaucoup aujourd'hui. Quand on remonte dans le temps long, eh bien on s'aperçoit que cette limite, si on veut, assez flou entre la terre et la mer, a toujours varié.
Parmi les photos de Felipe Fittipaldi, est-ce qu'il y en a une qui vous touche particulièrement et pour quelle raison ?
Alors j'ai choisi une photo où on voit la plage avec les vagues qui viennent mourir sur la plage et puis il y a cette chaise vide qui symbolise peut-être l'abandon ou au contraire l'attirance, hein, de se mettre sur une plage, de regarder la mer et en arrière-plan on voit une première maison qui semble assez intacte et puis plus loin, au contraire, des maisons qui sont en train de se faire grignoter par la mer. Donc ça donne à la fois une impression de désolation et à la fois une impression d'attirance pour la mer.
Le très bel ouvrage « La marche de l'océan » qui réunit donc le travail du photographe brésilien Felipe Fittipaldi et celui de la géomorphologue Marie-Hélène Ruse est paru aux éditions D'une rive à l'autre. C'est une très très belle maison d'édition d'ailleurs. On va bien entendu mettre le lien du livre sur la page internet de l'émission, hein, si vous voulez voir quelques-unes de ces photos. Et bonne nouvelle, un exemplaire de « La marche de l'océan » est à gagner, chers auditeurs. Pour tenter votre chance, envoyez-nous vos coordonnées complètes par mail à l'adresse suivante cestpasduvent@rfi.fr.
Allez, à vos claviers ou à vos téléphones. Merci beaucoup Caroline. Coralie Chaube, vous vouliez réagir?
Ben oui, parce que c'est cette question de l'érosion et des inondations côtières, évidemment, vous en parlez beaucoup, on en parle tous beaucoup. Et je voulais rappeler les derniers chiffres de la NASA qui a observé qu'en un an seulement, entre 2022 et 2023, le niveau moyen de l'océan a grimpé de 0,76 cm dans le monde. Et dit la NASA, nous sommes en chemin pour ajouter 20 cm supplémentaires au niveau moyen mondial de l'océan d'ici 2050, ce qui va accroître la fréquence et les conséquences des inondations à travers le monde et aussi l'érosion, même si les deux sujets sont un petit peu parallèles.
Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, 20 cm, on se dit que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est colossal, parce que si on rajoute à cela la dimension justement des traits de côte et les tempêtes qui s'accélèrent, les inondations qui augmentent avec les quantités de pluie aussi qui sont de plus en plus importantes, on comprend que les conséquences sur les populations qui habitent près des côtes, qui sont extrêmement nombreuses, sont de plus en plus importantes, et on en parle souvent dans cette émission.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Pauline Glaise, vous êtes donc la chef adjointe du service environnement climat de RFI et vous vouliez revenir sur le conseil d'administration du fonds pertes et préjudices qui s'est réuni pour la première fois la semaine dernière à Abu Dhabi. Alors ça peut sembler un peu technique comme ça, mais c'est une étape importante pour ce dispositif qui a été entériné lors de la COP28 de Dubaï. Alors avant de se pencher sur les avancées, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ?
Ah ben alors déjà, ce fonds pertes et préjudices, il a été créé en fait pour compenser, pour indemniser en quelque sorte les dégâts irréversibles causés par le réchauffement climatique, comme l'érosion côtière dont on vient de parler. Des fonds existent déjà, même s'ils sont insuffisants, pour aider certains pays à limiter le réchauffement climatique, pour s'y adapter. Et en fait, les pertes et préjudices, c'est l'étape d'après, c'est quand on ne peut plus s'adapter au changement climatique. Et donc, l'érosion côtière, par exemple, mais il y a d'autres exemples, la salinisation des terres en raison de la montée des mers, ça peut en faire partie. Et donc ce fonds avait été annoncé à la COP27, puis les modalités de sa création ont été fixées à la COP28, et maintenant la nouvelle étape cruciale, eh bien, c'est sa construction, et c'est ce qui a commencé à être fait la semaine dernière.
Alors justement, depuis la COP28 qui a eu lieu en décembre dernier, que s'est-il passé ?
Eh bien, ce fameux conseil d'administration chargé de concrétiser le fonds a été constitué. Cela a pris plus de temps que prévu, car les pays du Nord ne sont pas parvenus à s'entendre tout de suite sur la répartition limitée des sièges qui leur étaient attribués. Donc il y a 26 sièges au total. Juste pour mentionner le groupe des pays africains, il y a l'Afrique du Sud, la Zambie et l'Égypte qui siègent, par exemple. Et le Bénin, lui, est l'un des deux représentants pour les groupes des pays les moins avancés.
Et donc la semaine dernière, c'est cela l'actualité, le conseil d'administration s'est réuni pour la première fois.
Première réunion qui a commencé de manière un peu symbolique aussi, parce que l'un des trois jours s'est fait en visio à cause de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abu Dhabi. Mais alors, la réunion en elle-même, c'était en quelque sorte une mise en route avec beaucoup de points de procédure à régler. Les co-présidents du Conseil ont été choisis, donc il y a un représentant français et le représentant sud-africain qui ont été choisis. La place des observateurs, et c'est très important, de la société civile dans les discussions a aussi été définie. Après la polémique autour de leur présence assez restreinte lors de cette première réunion, il a été décidé d'accorder une place assez importante aux ONG. Mais il reste encore pas mal de routes à faire. Il faudra notamment choisir le pays d'accueil du conseil d'administration. Il y a plusieurs candidats, dont les Philippines, les Bahamas, la Barbade. Et ce choix, c'est une priorité, c'est important, parce qu'à partir de là, il sera possible de conclure les accords formels avec la Banque mondiale, qui devrait accueillir le fonds à titre provisoire. D'ailleurs, c'est une des prochaines étapes, parce que la Banque mondiale doit se prononcer d'ici le mois prochain pour savoir si elle accepte une série de conditions et notamment de déroger à certaines de ses pratiques.
Et alors par la suite, le Conseil sera également en charge de définir, et là les représentants des pays vont rentrer dans le dur, définir les critères d'allocation des aides.
Ouais, c'est une question tellement épineuse qu'elle n'avait pas été abordée au moment de la COP28 pour éviter les blocages justement. Il faudra décider notamment quelles catégories de pays pourront prétendre à ces fonds. Alors certains voudraient un accès qui soit limité aux pays les plus vulnérables, d'autres défendent un accès aux pays en développement, donc ça élargit l'éventail. Il faudra aussi s'assurer d'une juste répartition géographique, donc c'est encore un autre débat. Et puis il faudra aussi définir quel type de catastrophes naturelles seront éligibles. Et donc, avec tout cet amas de travail qui reste à faire, les spécialistes n'attendent pas à des versements avant l'année prochaine, en gros.
Igor Strauss, vous vouliez nous parler d'un pays qui pourrait peut-être justement prétendre aux aides de ce fonds, étant donné sa situation actuelle, c'est la Zambie. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce pays où vous allez partir dès
la semaine prochaine, samedi. Je pars samedi. La Zambie, capitale, Lusaka, comme tout le monde le savait, 20 millions d'habitants entre la RDC, la Tanzanie, l'Angola. Le Malawi, c'est un pays qui a un fort potentiel, gros producteur de maïs. C'est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique, mais malheureusement, c'est un pays qui s'enfonce dans la pauvreté. Et alors qu'il n'est en rien dans le dérèglement climatique, eh bien, ce pays subit...
En rien responsable,
évidemment. Ce pays subit de plein fouet, évidemment, eh bien, les aléas climatiques. Depuis 2012, il y a eu une seule année où il n'y a pas eu une grande sécheresse. Alors, sécheresse au sud, inondation au nord. En 2023, il y a eu des crues énormes. Ça a affecté 150 000 personnes. On n'avait jamais vu ça depuis plus de 50 ans dans le pays. Et il faut rappeler...
Aujourd'hui, on en a parlé beaucoup sur RFI. La Zambie souffre du phénomène El Niño, qui affecte toute l'Afrique australe.
Je parlais de cette sécheresse extrême. Elle est accentuée, évidemment, par le phénomène El Niño. Aujourd'hui, toutes les plantations de maïs ont été ravagées dans le pays. Évidemment, ça crée de l'insécurité alimentaire, de la famine. Le coût du maïs, évidemment, a explosé. Donc, il y a quelques solutions. J'en parlerai dans le reportage quand je serai là-bas. La culture sous arbuste, la culture de conservation. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le lac qui produit toute l'électricité, le lac Kariba, bien, les niveaux d'eau sont tellement bas, on n'est à même pas 15% des capacités. Du coup, le pays ne peut plus produire son électricité. Il y a donc des coupures, des délestages, parfois jusqu'à 8 heures par jour. Ça nuit évidemment aux entreprises qui ne peuvent plus produire, notamment l'industrie minière, l'industrie du cuivre. Donc c'est tout un pays qui subit de plein fouet le phénomène El Niño et qui s'enfonce malheureusement petit à petit dans la pauvreté. Mais je vous raconterai tout ça à mon retour de Zambie.
Et oui, nous avons hâte d'écouter vos reportages, Igor. Pauline Glaise, est-ce que la Zambie pourrait prétendre donc au fond perte et préjudice?
C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Et en fait, c'est d'autant plus difficile que ce fonds a été créé dans le cadre des négociations sur le dérèglement climatique provoqué par les activités humaines. Et là, en l'occurrence, cette sécheresse est attribuée plutôt à El Niño, qui est un phénomène naturel. Ça ne veut pas dire que la Zambie ne subit pas les effets du réchauffement climatique d'origine anthropique. Mais donc, ça va poser aussi toute la question de ce qu'on définit comme étant éligible pour ce fonds pertes et préjudices.
Et c'est là où il y aura beaucoup d'intérêt porté sur ce qu'on appelle la science de l'attribution, hein, qui sont ces scientifiques qui essayent de déterminer quelle est la part du changement climatique dans les catastrophes que les pays subissent. C'est vraiment une science qui est en train de monter un peu partout dans le monde et dont nous avons bien besoin et dont nous aurons bien besoin dans les années qui viennent. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Coralie Chauve. Je rappelle que l'on peut lire vos articles sur le site de Libération. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir par mail ou sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau rendez-vous. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, mais tout de suite, c'est le journal sur RFI.